Il y a 10 jours, il y avait une mise aux enchères qui pouvait paraître insignifiante pour nous, mais en fait, il y a un lien avec Paris. Cette caisse donc était mise aux enchères à Colchester. Et le souvenir que cela rappelle, c'est un souvenir qui remonte en fait à la Deuxième Guerre mondiale. Le 12 juin 1942, un pilote, un certain Gatward, aux commandes de son bombardier, va descendre le long des Champs-Élysées. Les services secrets ont découvert que, entre midi, midi 45, soit des troupes SS ou la Wehrmacht défilaient sur les Champs-Élysées. Et pour donner espoir à la France, en 1942, alors qu'on est dans les heures les plus sombres de la guerre, l'idée, c'était tout simplement de survoler et de tirer sur ceux qui allaient défiler et ensuite de lâcher un drapeau sur l'Arc de Triomphe. Et c'est ce qui s'est fait, cette idée un peu folle, elle s'est faite ce jour-là. Il y a donc eu cette descente de l'avion le long des Champs-Élysées. Et après la libération de Paris, de la France, pour le remercier pour ce coup d'audace, on lui a envoyé une caisse de champagne. Pas de médaille en France, on envoie du champagne. Dans un sens, quand on pense à cet événement, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça valait la peine de prendre le risque, avec un bombardier, de survoler Paris, de se faire tirer dessus par la DCA? Est-ce que ça valait la peine de faire tout ça? Et pourtant, pour eux, c'était donner un geste d'espoir à l'heure la plus sombre de l'occupation. Donner espoir. Et de la même façon avec notre texte ce soir, il y a cette question de n'importe quelle parole qu'on peut lire d'ailleurs dans les Écritures. Quel est le poids? Quel est le poids de cette parole? Qu'est-ce que ça change que cette parole soit là ou qu'elle n'y soit pas? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est la question qu'on va soulever ce soir. Et on va le faire en deux temps. On va parler des signes du changement et des raisons du changement. Les signes du changement et ensuite les raisons du changement. Le contexte a son importance pour comprendre ce passage. Et Matthieu nous a beaucoup aidé dimanche dernier. Et je ne vais pas revenir sur tous les éléments qu'il a mentionnés. Mais en pensant à ce contexte géopolitique, on peut rappeler qu'on a affaire à un déclin sur le plan moral dans le peuple d'Israël, un déclin qui se voit à différents niveaux. Et depuis Salomon, une des choses que l'on constate, c'est que le royaume est divisé entre le nord, Israël, le royaume du nord, Israël, le royaume du sud, Juda. Les deux royaumes sont donc rivaux. Et on est dans un marasme moral, reniant l'alliance qui avait pourtant été conclue avec Dieu au moment du Sinaï. Et c'est dans ce contexte que Dieu annonce son jugement, qu'on voit dans les premiers chapitres d'Ésaïe, tel que le prévoyait justement cette alliance au Sinaï. D'un point de vue géopolitique, la grande puissance du moment, c'est l'Assyrie, et on sent qu'elle a envie de s'imposer dans toute la région. La réaction du royaume du Nord, c'est de vouloir former une coalition avec la Syrie, Damas, et pour faire face à ce poids lourd qui est la Syrie. Dans cette résistance, il compte aussi s'emparer du royaume du Sud pour en faire un allié forcé. La réaction du royaume du Sud, c'est quoi? C'est de vouloir, comme on l'a vu la dernière fois, se tourner vers la Syrie, justement, pour rechercher sa protection. Et si dans le court terme, le royaume du Sud, Juda, va être préservé de l'invasion, la coalition, elle va elle-même connaître l'invasion assyrienne. La nation qui la protégeait au départ va devenir une menace, en fin de compte. On le voit dans le chapitre 8, la Syrie est décrite comme un raz-de-marée qui ira jusqu'à son cou. La Syrie est donc une menace pour le royaume du Nord comme pour le royaume du Sud. Et petit à petit, le ciel s'assombrit. Le constat se voit à la fin du chapitre 8, ce sera la détresse. Au verset 22, l'obscurité, de sombres angoisses, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Les ténèbres, c'est quelque chose qu'on, la nuit, c'est quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui pour parler d'une situation de crise. On parle d'une heure sombre. De ténèbres, on l'utilise pour parler de détresse angoissante, et c'est le cas ici. Mais ce qui est intéressant à relever, je trouve, pour le livre d'Ésaïe, c'est que les ténèbres décrivent à la fois la direction qu'a prise le peuple, le jugement de Dieu en même temps. Leur péché, le mal qu'ils commettent, la direction qu'ils prennent, mais en même temps le jugement de Dieu. Regardez par exemple chapitre 5, verset 20. « Quel malheur pour ceux qui disent le mauvais bon et le bon mauvais, qui font des ténèbres une lumière et de la lumière des ténèbres. » Autrement dit, les gens avaient tendance à appeler le mal bien et le bien mal. Et sur un plan moral, on voit par exemple que l'appât du gain domine, on n'hésite pas à s'emparer des terres des pauvres, aucune compassion pour les plus démunis, alors que c'était prévu dans la loi de Moïse. Corruption, pot de vin, tout ça c'est présent. Le peuple est entré dans diverses dépendances, l'alcoolisme, l'occultisme. Ce mal vers lequel il se tourne est décrit en termes de ténèbres. Mais dans ce même chapitre 5, on voit que les ténèbres décrivent le jugement de Dieu. Au verset 30, « En ce jour-là, il y aura sur lui un grondement, comme le grondement de la mer. On regardera le pays, ce seront les ténèbres, l'angoisse, la lumière sera enténébrée par les orages. » Et c'est intéressant d'y réfléchir pour nous-mêmes. Les ténèbres peuvent être à la fois l'injustice qui nous attire et en même temps le jugement de Dieu sur nous. Des ténèbres qui entraînent les ténèbres. Prenez par exemple l'occultisme ou l'astrologie qui est mentionnée dans le chapitre 5. Dans la perspective biblique, on voit que Dieu désire que l'homme ne cherche pas à connaître son avenir. Le fait de ne pas connaître l'avenir, c'est ce qui garantit sa responsabilité, sa liberté dans la prise de décision. Et pourtant, il y a une fascination qu'on retrouve à travers l'Ancien Testament à connaître l'avenir. On veut savoir comment les choses vont se passer, qu'est-ce qui va nous arriver. Dans notre contexte, on arrive à la fin de l'année et on va bien entendu entendre parler de Madame Soleil. Personne n'en a entendu parler, semble-t-il. Et on va de nouveau entendre les projections pour l'année qui vient. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui, dans une conversation qui disait à quelqu'un d'autre que près de 100% des personnes, je ne sais plus si c'était 98-95% des personnes connaissent leur signe astrologique, mais peut-être 20% de personnes connaissent leur groupe sanguin. C'est intéressant, hein? On est quasiment tous à connaître notre signe astrologique et pourtant, qui connaît ici son groupe sanguin? Le contraste, il est parlant, une fascination vis-à-vis de l'astrologie et dans le même temps, on réalise qu'on continue à avoir une peur de l'avenir. Est-ce qu'on aura consulté les bons horoscopes? Est-ce qu'on sait comment ça va se passer? Et même sans parler d'horoscope, il est possible de se tourner vers un conseiller financier et d'avoir cette crainte au ventre et ce désir de savoir comment les choses vont se passer au niveau de la crise économique et comment on va pouvoir s'en sortir. Et la peur, est-ce qu'elle aura disparu? Est-ce qu'elle sera absente une fois qu'on aura consulté? Des ténèbres dans lesquelles on entre et dont la conséquence est un aveuglement toujours plus fort, des ténèbres qui entraînent des ténèbres. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus d'espoir? Ici, à la fin du chapitre 8, au début du chapitre 9, on découvre le premier signe du changement. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Cette même image du jour et de la nuit, on le retrouve au verset 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Une lumière va briller. Il y a des références qui sont faites à des lieux, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali. L'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Il s'agit en fait de zones dans le royaume du Nord, des zones à risque, puisque ce sont les premières zones qui vont être envahies par la Syrie. Et effectivement, elles seront annexées par les Assyriens en 734, entre 734 et 732. lorsque celle-ci va intervenir contre la coalition. Les territoires des nations, ça fait semble-t-il référence à ces territoires où il y aura un mélange de populations. Il y aura un exil forcé d'un certain nombre d'habitants là, et ils vont être remplacés par ceux que les Assyriens vont envoyer, d'autres populations avec leurs propres croyances qui vont s'installer là. Et tous les ingrédients sont là pour une situation qui va encore s'assombrir, n'est-ce pas ? Quelque chose de plus sombre en perspective, puisque les croyances se mélangent, chacun va faire sa propre sauce. Mais pourtant, c'est là que la lumière va commencer à briller. C'est là. Et le signe suivant qui en témoigne, c'est la joie. Une joie complète au verset 2. « Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. » Pensez à une joie complète, à la fois celle de la moisson, quand on récolte tous les fruits, les semences, quand on partage un butin. Une joie complète, les signes d'un changement. Maintenant, à quoi est-ce que Ésaïe fait référence ? Est-ce qu'il fait référence, par exemple, à la délivrance qui s'est faite en 701, alors que Ézéchias s'était révolté contre la Syrie, et la Syrie qui vient, en réponse, l'envahir ? Est-ce que c'est cette délivrance-là, ou alors est-ce que c'est le retour de l'exil pour certains d'entre eux ? Par la suite, on pourrait y voir un certain accomplissement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que plus tard, dans la Bible, on voit un plus grand accomplissement. Pour Matthieu, l'auteur de l'Évangile, l'endroit où Jésus débute son ministère est significatif. Matthieu 4, versets 12 à 17. Jésus se retira en Galilée, il quitta Nazareth, vint demeurer à Capernaum, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Et les paroles d'Ésaïe sont citées, terre de Zabulon, terre de Nephtali, etc. Dès lors, Jésus commença à proclamer, changer radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Jésus est en marche, il arrive en Galilée, et pour Matthieu, c'est le signe du changement annoncé par Ésaïe. Et le changement se voit dans le message. Changer radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Le royaume s'est approché, et Jésus est le roi par lequel on y entre. Et au fil des pages, on réalise que si Jésus nourrit des foules, s'il guérit des personnes, s'il opère des miracles, au cœur, il y a un changement spirituel qui l'amène. Et c'est sur ce plan-là, avant tout, que Jésus va libérer. Tout ce qu'il fait en témoigne. Sa présence, c'est une invitation à changer, justement. J'ai commencé en parlant tout à l'heure de ce qui s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur ce drapeau lâché sur l'Arc de Triomphe. Et il a fallu un peu plus de 2 ans pour que la libération ait lieu de l'occupation nazie. Ésaïe, lui, a rédigé quelques 7 siècles avant la venue de Jésus. Durant 7 siècles, on peut imaginer les périodes plus ou moins troublées, des périodes peut-être d'apaisement pour certains, d'Ézéchias pendant un temps, mais ensuite des luttes, des invasions, des déportations respectives, celles du nord, celles du sud. Autrement dit, les circonstances des uns et des autres vont être pénibles à plus ou moins de degrés, mais cette lumière, elle a été annoncée et elle va être révélée. Et l'histoire est là pour en témoigner. Pour nous qui vivons de ce côté-ci de la venue de Jésus, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Encore, je trouve intéressant de voir que cette image du contraste entre lumière et ténèbres est reprise dans le Nouveau Testament. Et elle décrit l'attente du chrétien, au chapitre 13 de Romains, par exemple, versets 11 et 12. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dans la perspective du retour de Jésus, qui est annoncé par les Écritures, nous sommes invités à être réveillés, à avoir cette joie par anticipation de cette révélation de la lumière. Un même appel à la foi, à la confiance en ses promesses, un même appel à une attente persévérante. Et de la même façon que cette foi était appelée à traverser les siècles au temps d'Ésaïe, elle est appelée à traverser les siècles aujourd'hui encore. Quand on pense à notre texte, on peut être surpris de voir que tous les temps sont, dans un premier temps, au passé. Mais pour les prophètes, c'était une manière de dire que c'est comme si c'était déjà réalisé. Comme si c'était déjà arrivé. Ayez les yeux de la foi. Voyez comme si c'était déjà accompli. Dieu l'a déjà fait. C'est ce qu'on appelle le passé prophétique. Et si nous sommes croyants ce soir, nous sommes placés devant cette même question de la foi ou non dans la parole de Dieu, dans ses promesses. On est placé devant ce choix, mais avec l'avantage d'avoir devant les yeux l'exemple d'une lumière qui a été annoncée 7 siècles avant la naissance de Jésus, et une lumière qui a manifestement brillé. Être croyant, c'est croire aux promesses, à cause de leur contenu, de renoncer aux œuvres des ténèbres. Dans la suite, on découvre les raisons du changement, dans les versets 3 à 6, et on trouve là 3 explications. Ça ne se voit pas pour le verset 4, mais chacune de ces phrases commence avec « car » pour donner une raison. La première raison, c'est la libération. La deuxième raison, c'est la destruction de mauvais souvenirs. La troisième raison, c'est en fait l'ultime explication, la naissance d'un enfant roi. Quand on commence avec la première raison, la libération, on remarque que les 2 premiers vers sont des termes en référence à l'esclavage en Égypte, au temps de Moïse. Les 2 suivants, c'est des références à l'oppression sous les Madianites au temps de Gédéon. Et dans les 2 cas, l'oppression était forte, pesante. Dans les 2 cas, Dieu a opéré une libération qui seulement pouvait lui être attribuée. C'est le réel agent. Avec Moïse, un peuple qui traverse la mer Rouge et qui échappe à l'armée du Pharaon. Avec Gédéon, des milliers de Madianites vaincus alors que de l'autre côté, il n'y a que 300 combattants. La deuxième raison qui est donnée pour le changement et pour la joie qui en découle, c'est la destruction des mauvais souvenirs. Si vous avez le printemps arabe à l'esprit, on peut se souvenir de certaines images de moments où on brûle des portraits, par exemple, de Kadhafi. Tous les symboles du gouvernement, de l'imposition de leur dictature, de leur pouvoir, brûlés dans les flammes. Ici, ce sont les bottes qui piétinaient dans la bataille, les manteaux roulés dans le sang qui sont livrés aux flammes. La marque des oppresseurs, les marques des oppresseurs qui sont détruites. La troisième raison qui est donnée, et c'est la raison principale pour ce changement, c'est la naissance de l'enfant roi. La naissance de l'enfant roi. Quand vous entendez enfant roi, je ne sais pas ce que ça vous donne comme impression. Tous les instituteurs, les institutrices se disent en masse, et les parents qui se disent oh, l'enfant roi. Mais je vous rassure, on est passé à une autre dimension. Je lisais un article il n'y a pas si longtemps. On est maintenant dans la période de l'enfant tyran. Il y a mieux que l'enfant roi, il y a l'enfant tyran. Ici, il ne faut pas le lire de manière péjorative. Cet enfant roi, ce n'est pas quelqu'un qui est absorbé par l'attention qu'on lui porte, qui veut voir tout tourner autour de lui. Les termes avec lesquels on parle de lui sont très élogieux, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'appelle du nom de conseiller étonnant. Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Si on prenait conseiller étonnant, quelqu'un qui... pourra permettre la prise de décision et la décision la plus avisée. On apprécie tous avoir un bon conseil, quelqu'un qui est de bon conseil. Et si on trouve des remarquables conseillers à travers l'histoire, pensez à des conseillers de président et autres, celui-ci les dépasse tous, étonnant dans le sens de surnaturel. Dieu héros. Il doit être pris au sérieux parce que c'est Dieu lui-même qui intervient. Un Dieu interventionniste, pas simplement omniscient qui sait tout, mais omnipotent, qui peut tout, un héros qui intervient dans l'histoire. Si les deux premiers parlent de son œuvre, à la fois la préservation, sa sagesse, dans sa sagesse, la libération en tant que héros, les deux suivants vont décrire les conséquences de son règne. Il est le Père éternel. Tout en sous-entendant l'autorité en tant que Père, il y a une relation qui est tissée avec ceux qu'il gouverne. Et ils peuvent avoir confiance en lui, comme on a confiance en un Père. Et à la différence d'un gouvernement qui vient pour un temps et qui passe, et qu'on pourrait, dans les années qui suivent, regretter, c'est un royaume éternel. Prince de paix. Dans la perspective biblique, la paix, elle est globale, complète. C'est autant le bien-être que la libération de toute anxiété, l'harmonie avec le monde dans lequel nous vivons, l'absence de guerre, de conflit, la paix avec Dieu, la pleine réalisation de sa faveur. Et c'est intéressant de se demander quel profil on donnerait à cet enfant qui vient, à ce roi qui doit venir. Un héros à la mode bande dessinée, X-Men, Spider-Man, Superman, un molosse, quelqu'un de costaud qui impose par les biceps, un général bardé d'étoiles qui pourrait être un fin stratège dans tout conflit, un fin politicien qui saura manœuvrer dans n'importe quelle situation. Il s'agit d'un enfant, même pas d'un adulte, un enfant. Et par cette description, on réalise que Dieu montre dans un premier temps la vulnérabilité de celui qui vient. Celui qui doit venir vient dans une pleine humanité. Ce n'est pas Dieu dans sa tour d'ivoire, c'est un enfant, un bébé qui va naître. Et dans le même temps, ce serait faux de le réduire à un bébé qui reste dans la crèche, il a la souveraineté sur son épaule. On ne va pas le manipuler avec facilité. Toute la description qui est faite de lui nous dit qu'il n'est pas à prendre à la légère. Comme tout à l'heure, on réalise que des siècles se sont écoulés entre la prophétie et la naissance de cet enfant qu'on célèbre à Noël. Et quelqu'un pourrait dire, mais alors, qu'en est-il de cette paix? Qu'en est-il de cette paix qu'il devait instaurer? Cessation de toute guerre? Fin de l'oppression? Jésus est venu et pourtant, il y a toujours des guerres, des oppresseurs, des dictateurs. Dans quelle perspective doit-on lire ce qui est annoncé ici? Dans un premier temps, quand on suit cet évangile de Matthieu qui met le doigt sur cette prophétie, on pourrait relever dans un premier temps, en suivant, dans Matthieu 5, 6, 7, que Jésus a enseigné qu'il fallait aimer ses ennemis, tendre l'autre joue dans le sermon sur la montagne. Plus tard dans le livre, il va annoncer un jugement et à ses disciples leur dire de veiller en attendant son retour. Il y aura bel et bien une justice qui sera instaurée, la fin de toute oppression. On pourrait ensuite relever dans sa propre trajectoire que c'est ce qu'il a mis en pratique. Il n'a pas eu recours à la force, aux armes. Il reprend Pierre pour avoir pris une épée. Au moment où on le condamne, il ne formule aucune menace. Les conflits n'ont pas cessé pour autant. Il y a bien des temps d'accalmie, mais on retourne dans les cercles de violence. Alors comment comprendre? En fait, c'est comme si la venue de Jésus nous donnait une fenêtre sur ce que son royaume va être. Un aperçu, un avant-goût. Ce royaume, c'est vrai, il n'est pas encore pleinement manifesté. Parce qu'au sommet de sa mission, et c'est ce que l'évangile de Matthieu veut dévoiler, il y a sa mort à la croix. Une mort violente. C'est sur lui que repose le fardeau. C'est lui qui doit porter sa croix. C'est lui dont on frappe le dos. C'est lui dont on se joue. C'est sur lui qu'on trouve du sang. C'est celui qui meurt de la mort d'un esclave. C'est sur lui que les ténèbres tombent, signe d'un jugement de Dieu. Et tout cela, Matthieu en rend témoignage. On réalise en fait que Jésus a encaissé en sa personne la violence à laquelle il est déterminé de mettre fin. Et c'est ce qui doit nous donner l'assurance que nous n'allons pas récolter les ténèbres que nous avons pourtant poursuivies. C'est ce qui devrait nous donner l'assurance que nous n'aurons pas à subir ces ténèbres qui nous attirent et dans lesquelles nous avons tendance à retourner, parce qu'il a encaissé lui-même ces ténèbres à notre place. En attendant le jour où son règne sera pleinement manifesté, il nous invite à reconnaître qu'il n'est pas un conseiller de pacotille, il est le meilleur conseiller. Il n'y a pas meilleur conseiller que lui. Il nous invite à reconnaître qu'il est un Dieu héros. Il n'est absolument pas limité. Il sauve en tout temps et en temps voulu. Parce qu'il est tout puissant. C'est un Père éternel dont l'autorité ne peut pas être remise en question. Une autorité bienfaisante et dont sa stabilité sera éternelle. Un prince de paix. Celui qui instaure une paix globale, intérieure, délivrée de toute anxiété, extérieure, expérimentée dans la famille de Dieu, mais une paix avant tout objective avec Dieu parce qu'il l'a scellée par son propre sang. Et il nous invite à la foi en lui. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour ces ténèbres qui nous attirent, ces tendances, ces voies, ces injustices que nous avons tendance à rechercher. Et nous voulons reconnaître que ces ténèbres, ton jugement, nous les méritions. Nous te rendons grâce pour celui qui est venu dans la simplicité, comme un enfant, dans sa vulnérabilité. Et qui tout au long de sa vie a incarné cette paix qu'il est venu instaurer. Nous te remercions parce qu'il a été prêt pour nous donner cette paix, à encaisser sur lui les ténèbres. Et c'est dans la foi, Père, en ses promesses, dans l'émerveillement devant sa trajectoire que nous voulons vivre aujourd'hui. Aide-nous, Père, à vivre de cette lumière et à la refléter. Te le prions au nom de Jésus. Amen.